À chacun son voyage de Carole Détain, suite. Un après-midi du mois de janvier, Maude retravaillait ses textes dans la grande salle de l'atelier d'artiste, haute de plafond, au deuxième étage de l'ancienne usine d'électricité. Elle n'avait pas le choix. Qu'aurait-elle pu faire d'autre de ses journées? L'accablement gagnait du terrain. Son regard balayait les œuvres en cours, des visages d'enfants peints à l'huile arboraient de lumineux regards sur d'immenses toiles hautes en couleur, des arbres aux troncs noueux, finement dessinés à l'encre de Chine, abritaient des mouches, des abeilles et des fleurs. Des voilages et des colliers de perles constituaient d'énigmatiques tableaux en relief. Ces collages, où figuraient des silhouettes féminines, fantomatiques et mystérieuses, étaient depuis des mois lentement élaborés par Ursula, une mère de famille souriante et douce, pleine de bon sens et de tolérance. Maude était alors l'un des piliers de l'atelier. Sa persévérance s'émoussait et elle n'avait pas encore découvert la méthode des moyens de transport. Elle déjeunait dans la cuisine aménagée qui s'ouvrait sur une cour intérieure éblouissante de clarté les jours de soleil. Elle écoutait les conversations échangées autour du micro-ondes. « Il faudra me le dire, » disait Ursula, son interlocuteur du moment, « si un jour je commence à critiquer l'atelier, les conditions de travail, alors qu'elles sont au contraire tellement exceptionnelles, il faudra pas hésiter à me remettre en place. » La nature humaine étant ainsi faite, des critiques sévissaient en effet de temps à autre, assénées par les inévitables insatisfaits du jour. Maude attrapait au vol ses propos justes et généreux. Elle apercevait parfois sa fille, d'environ 10 ans, le mercredi ou pendant les vacances scolaires. L'enfant peignait près de sa mère. Maude était admirative, la petite passait du temps dans une ambiance qui stimulait son imagination. Cette expérience, liée à la passion maternelle, favorisait son épanouissement actuel et futur, Maude n'en doutait pas. Maude était triste en ce début d'après-midi. L'enthousiasme la désertait un peu plus chaque jour. Les artistes autour d'elle poursuivaient leur chemin, quelles qu'en soient les difficultés. Maude travaillait avec peine, le labeur lui pesait, les heures passaient lentement. Elle se leva. Elle s'arrêta devant la douce et inquiétante toile d'Ursula. Des lambeaux de voilettes mêlée à des mèches de cheveux blonds passés, en ornait le centre. Ursula s'était absentée. À son retour, Maude lui parla de son tableau. Il lui évoquait des poupées aux yeux de porcelaine, des dentelles et des rubans passés de mode, abandonnés et redécouverts au fond de malles poussiéreuses dans des greniers de vieilles demeures, dans des maisons hantées habitées par des odeurs de forêt. Ursula lui parla de ses doutes incessants qui accompagnaient sa création. Elle n'avait pourtant pas le choix. Elle imaginait ses objets, plumes et capelines de grand-mère, et elle leur donnait forme. « Et toi, comment ça va ?» demanda-t-elle au cours des tours et des tours de la conversation. « Moi, pas trop bien, » répondit Maude. « Ah bon, pourquoi ?» Ce que j'écris, mes efforts, je me demande à quoi ça sert. Ursula lui raconta alors sa vie, elle lui expliqua comment elle réussissait envers et contre tout à poursuivre dans l'atelier ses tableaux en relief. Elle lui parla de son métier, nécessaire pour gagner sa vie, mais qui participait à son équilibre. Toute la journée, elle courait pour gagner du temps pour ses tableaux. Et moi, je crois, lui dit Maude, que j'ai trop de temps et moins d'envie que toi. Ursula donnait des cours de qigong en entreprise. Elle permettait aux cadres, aux ouvriers, de vivre des moments de détente. Elle participait à la lutte contre la souffrance au travail très, très diffuse. Elle adorait son travail. Maud l'écoutait. Elle se disait qu'elle-même manquait de passion dans sa vie. Le mouvement et l'intensité en étaient absents. J'ai dû arrêter la fac, continuait Ursula. Une licence de chinois, c'était passionnant. J'ai arrêté pour gagner ma vie avec le qigong. Mais les cours étaient palpitants. Parfois, je rencontre d'anciens étudiants qui étaient avec moi. Ils sont en master maintenant, ils vont préparer une thèse. Ils avaient tous les âges. La faculté, mais oui, pourquoi pas ? Se dit Maud. Et une ébauche d'idées se dessina, peu distincte dans son esprit. Elle se souvenait, elle avait suivi des cours de philosophie à la Sorbonne pendant ses études à HEC. Ses cours préférés étaient ceux où l'on assistait en direct au développement de la pensée, qui se trouvait être dans l'instant traduite en mots. Ses cours, les plus captivants à son goût, donnaient l'impression de n'avoir pas été préparés. Maud assistait au déploiement spontané du discours. Il prenait forme au moment où il était dit. Il existait grâce à l'enchaînement des mots, plus précisément grâce au flux vivant des paroles. Les idées semblaient naître pendant la durée du cours, autonomes et surprenantes. Elle était exaltée à l'époque. L'idée se précisait. Redevenir étudiante. Le projet serait peut-être réalisable, susceptible de la sortir de l'ornière où elle sentait qu'elle s'enfonçait peu à peu depuis des mois, l'ornière du découragement et du sentiment de vacuité qui accompagnait ses heures. La nuit suivante, elle resta éveillée. Suivre des cours, rencontrer des professeurs, ce pourrait être passionnant. Sa vie serait plus animée. Le menaçant vide existentiel serait sérieusement mis à mal. L'idée l'enthousiasmait. Elle se tournait dans son lit de droite et de gauche. Elle cherchait, sans succès, le domaine d'études qui lui conviendrait. Elle ne devait pas se tromper. Les heures s'écoulaient. Elle ne trouvait pas. Les questions du sens et de l'être au monde seraient au cœur de sa recherche. L'interrogation était d'ordre philosophique, mais elle sentait que la matière philosophique ne serait pas la solution. Une démarche strictement intellectuelle ne la séduisait pas. Elle avait en mémoire ses relations passées avec Fanny, dont l'amitié l'avait aidée quelques années plus tôt. Maud était alors habitée par d'autres angoisses relatives aux résultats scolaires des enfants. Thibaut était maladivement inquiet quant à leur avenir matériel. Fanny lui téléphonait chaque jour. Grâce à elle, Maud ne cédait pas au découragement. Ses conseils, sages et bienveillants, dépassaient largement les domaines de la raison et de la réflexion. Fanny tirait sa force de la prière. Sa démarche était spirituelle. La pratique du bouddhisme structurait sa vie en profondeur. Elle l'ouvrait aux autres, mais sa propre identité demeurait le principe fondamental de son équilibre. Maud sentait que la raison, la logique, les systèmes et les argumentaires ne sauraient être pour elle l'unique voie à explorer. Et soudain, dans l'obscurité silencieuse de la chambre, la solution se découvrit à elle. La philosophie serait bien évidemment au cœur de sa recherche, mais s'y ajouterait la dimension spirituelle. Elle l'avait trouvée. Elle se lancerait dans des études de théologie. Elle suivrait des cours, elle approfondirait, elle rencontrerait des étudiants, des professeurs, mais oui, c'était bien sûr. Les religions, différentes en apparence, reposent sur des principes communs et universels. Si Maud avait vu le jour en Extrême-Orient, elle aurait sans doute choisi d'étudier les traditions spirituelles de cette région du globe, mais elle était de culture chrétienne. Son mari était un catholique convaincu. La théologie, donc. Elle tenait enfin son sujet. Il constituait son environnement culturel, le lieu de ses racines. Les semaines passèrent. Le pape Benoît XVI avait démissionné. Le pape François avait été élu. Les bulletins d'information ne cessaient de diffuser des éléments de leur biographie. Les deux hommes avaient suivi des formations exigeantes. Maud fut confortée dans la voie qu'elle s'était choisie. Elle était impressionnée. Elle admirait ces vives intelligences qui s'appuyaient sur leur puissante capacité de raisonnement ainsi que sur leur foi profonde. De tels hommes disposaient à l'origine d'aptitudes intellectuelles hors du commun, mais ils avaient également su faire patiemment et classiquement leurs humanités. Ils avaient parcouru des cursus empruntés par leurs prédécesseurs. La démarche était passionnante. Maud, à son niveau, allait se mettre en quête des valeurs et du sens. Elle était soulagée. Son avenir allait changer. Sa vie ressemblerait à sa façon à celle d'Ursula qui jonglait entre son activité de salarié et celle de peintre. Elle aussi jonglerait entre les études et son écriture. La perspective l'exaltait. Elle avait enfin résolu le problème qui l'occupait depuis le début de la nuit. Elle attendit patiemment l'heure de se lever. Maud parla volontiers, après cette mémorable nuit, de ses projets, à qui voulait bien l'entendre, à ses correspondants par répondeurs interposés, à Michel, à Mathilde, à Sabine, à Annette. Thibault aussi eut droit au développement détaillé de ses attentes et de ses espoirs dans ses lettres orales quotidiennes. À Paris également, Maud avait l'habitude de déposer des messages sur son répondeur lorsqu'il était au bureau, toujours pour la même raison, pour maintenir entre eux les « boulons » bien ajustés de l'échange. Le soir, au retour du travail, écouter les « états d'âme » en direct de Maud l'aurait singulièrement fatigué. Maud le savait, elle pratiquait donc le décalage. Thibault s'accordait des moments de pause dans la journée. Il écoutait alors les considérations diverses et variées de son angoissée d'épouse. Maud avait mené son enquête. Les cours de théologie étaient organisés par le Collège des Bernardins. Elle participa à une journée porte ouverte. Les visiteurs appartenaient visiblement à une honnête bourgeoisie, aisée, et ils étaient apparemment à la retraite. Elle fut atterrée. Elle perdit d'un seul coup d'un seul tout son enthousiasme. Évidemment, se dit-elle, des personnes qui soudain ont du temps après leur vie active, des personnes dont la santé n'est plus si florissante, et les voilà qui regagnent les bancs de la faculté ou son équivalent. L'ambiance induite par ce type de public lui sembla terriblement compassée, conventionnelle, étouffante et triste, exactement à l'opposé de ce qu'elle recherchait. Le mouvement, le sourire, l'ouverture d'esprit, la légèreté, la pensée en action et la passion aussi. Elle partit en courant. L'image n'est qu'à peine métaphorique. Maud abandonna son projet. Elle avait, pendant des mois, anticipé un futur changement dans sa vie. La progression de la tristesse s'en était trouvée ralentie d'autant. Une fois ces perspectives effondrées, l'évolution préalablement entamée reprit son cours. L'élan et l'enthousiasme avaient fui. Son énergie vitale se réduisait à une triste peau de chagrin. Elle était perdue. Elle se laissait porter sans direction ni point de repère. Chacun autour d'elle se montrait amical et prolixe. Chacun y allait de son conseil bienveillant. « Tu ne sais pas, lui dit Thibault, on m'a raconté, une collègue bientôt à la retraite m'en a parlé. Il existe un pass qui permet d'assister à tous les cours que l'on souhaite, à la Sorbonne ou bien ailleurs. »« Ah oui, c'est intéressant, avait répondu Maude. » Mais l'enthousiasme avait, corps et biens, disparu. A priori courtoise et conciliante, elle n'allait pas de but en blanc opposer une réponse négative frontale à une proposition aussi sensée. C'est vrai, c'est intéressant, je pourrais peut-être écouter des conférences sur la littérature, c'est une idée, répondait-elle sans passion excessive. Ce qu'elle ne disait pas à Thibault, dont l'intention était généreuse, c'était que ses cours n'auraient constitué pour elle qu'une occupation permettant de tuer le temps, d'emplir ses jours, de combler le vide, et ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne voyait pas la différence avec l'organisation de certains retraités, tout dépend de l'état d'esprit, qui structurent leur semaine avec le bridge, les cours d'informatique, d'anglais, de tricot ou de macramé, et qui, pour rien au monde, ne manquerait l'une de ces activités, comme s'il craignait le plus grand des dangers, que la terre ne s'arrête de tourner, par exemple, comment savoir. Elle détestait l'idée de devenir un auditeur libre pour s'occuper. L'étude théologique, telle qu'elle l'avait imaginée, avait dans son esprit été tout autre, vive, portée par la quête du sens. Elle l'avait conçue comme une démarche en profondeur de progression, le contraire d'une occupation destinée à épuiser les jours. Elle continuait à parler à Sabine, à Michel, à Mathilde, à Annette. Elle leur disait qu'au sein de son désarroi, elle avait gagné malgré tout un motif unique, cela va sans dire, de satisfaction. Elle était lucide, capable de le souligner. « Voilà, disait-elle, je suis arrivée au bout de mes questions. J'ai enfin trouvé le point dur, vif, aigu du sujet. Je me sens dans une impasse, au bout d'un chemin, je n'irai pas plus loin. Je dois me colter à cette réalité-là, sans faux-semblant, faux-fuyant, oripeau ou habillage de toutes sortes. Jusqu'à présent, dans ma vie, je pouvais, au fond, toujours expliquer l'origine de mon malaise par des facteurs extérieurs. » Alors qu'en réalité, le vide existentiel devait être là en moi depuis toujours. Et je ne supportais pas. J'étais adolescente, triste, décalée, malheureuse. Mes parents étaient responsables, n'est-ce pas? Sans doute pas assez transparent, ouvert, curieux, des hypothèses, je ne sais pas. À 25 ans, je sombrais jusqu'à l'hôpital psychiatrique. La faute était celle de l'autre, du compagnon de vie que je n'avais pas trouvé. Puis, ce fut le travail en entreprise qui vraiment ne participa en rien à mon épanouissement, un euphémisme de le dire. Et ensuite l'angoisse, la scolarité des garçons, qui a bien occupé une vingtaine de mes années. Il y eut aussi des moments vraiment où Thibault n'était pas drôle, ne parlait pas, fermé cet homme-là. Tout va mieux. Il parle peu, mais on est proche. Je compense. Avec les lettres orales, on s'adapte. Il s'énerve plus autant contre moi, en tout cas. Les éléments extérieurs, tous se sont améliorés. Pourtant, le malaise est là. J'y arrive, enfin, au véritable enjeu, qui est de trouver en moi la joie, la sérénité. Être au monde, il m'en aura fallu des années pour le dépouiller de tous ses attributs extérieurs sous lesquels il se dissimulait. Là n'était pas le problème, pas du tout, pas à l'extérieur. C'était moi le problème en réalité. Tel était son attristant motif de satisfaction. Sa personnalité propre était à l'origine de ses souffrances. Il ne lui restait donc qu'à se mettre à la tâche, maintenant que son analyse était parvenue à son terme, à affronter la vraie question plutôt que des leurres successifs qui s'étaient évanouis les uns après les autres. Maud essayait, mais n'y parvenait pas. Au mi-temps de juin, elle ne voyait plus l'avenir. Elle reprit alors en pleurs. Un soir de ce même mois, le chemin des personnes soutenues chimiquement. Elle s'était depuis installée à Kerbihan. Elle y avait connu au tout début une vibration d'inquiétude, une question d'adaptation, puis elle avait su faire, elle avait su vivre paisiblement cette période de plus long tête-à-tête avec Thibault que lorsqu'ils sont à Paris. Elle avait trouvé la vie légère, puis, second moment d'adaptation, une ombre d'inquiétude avait voilé son paysage, elle restait sans lui à Kerbihan. Elle avait également su faire, et même pour plus de légèreté, elle avait repris la barre d'un dériveur, ce qu'elle n'avait plus expérimenté depuis des dizaines et des dizaines d'années depuis sa jeunesse. On n'ose pas dire combien. Elle fêtait cet été son 57e anniversaire. Ce n'est pas peu dire. Et la voile fut magnifique, de l'ordre même de la grande découverte. Puis, en septembre, de retour à Paris, les questions sérieuses étaient cette fois-ci susceptibles de s'imposer de nouveau. Un séjour maritime était certes propice à alléger l'existence, mais il n'était qu'une parenthèse dans sa vie. Elle allait renouer avec sa vraie vie quotidienne. Les questions qui l'avaient tourmentée toute cette année n'avaient pas pour autant disparu. Elle serait présente. La solitude était indissociable de l'être au monde. Maud supportait mal ces journées comme celles de l'année précédente, malgré les amis, malgré les enfants le soir. Ils seraient dans leur chambre. Malgré Thibault le soir, il serait devant la télévision. Malgré les lettres orales qu'elle lui adresserait et les repas du week-end ensemble au restaurant, seraient des jours où elle devrait vivre seule son être au monde. Mais depuis juin, la gentille, douce, consolante et cocoonante paire de lunettes était de nouveau de la partie. Son effet correctif serait-il aussi performant dans le quotidien parisien que dans l'exception estivale? Les questions dérangeantes, c'était, pendant sa lourde et longue période de tristesse, dépouillées de leurs oripeaux extérieurs. Maud avait gagné en lucidité. De telles interrogations pouvaient-elles, comme par magie, s'évaporer purement et simplement ?